C'est un immense privilège pour moi d'être l'hôtesse de ce témoignage, cette téléconférence que va nous présenter Jean-Luc Fenning. Jean-Luc Fenning est un des coachs qui a fait le programme d'entraînement au coaching professionnel qui vient tout juste de terminer, qui est en période d'examen et malgré ses aventures en Afrique, il a pris le temps de faire ses examens. C'est un amoureux de voyage et de grand air qui est devenu ingénieur agronome en 1983, où il travaille dans différents bureaux autour de l'Afrique. Et en 1990, il décide même de s'installer avec son épouse et ses enfants au Burundi, petit paradis d'Afrique centrale. Et il lance une entreprise de production d'exportation de plantes ornementales. Je vais laisser Jean-Luc continuer à se présenter, étant donné que ça fait partie de son témoignage, tout ce cheminement. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions vers la fin de sa présentation. Jean-Luc, je te laisse le plancher. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'interpeller. Je reste en ligne avec toi. Et s'il y avait des difficultés techniques, je mettrai la conférence en mode lecture afin d'augmenter la qualité d'écoute pour tous. Jean-Luc?
Un grand merci, Nadine. Un grand merci. Ben, à mon tour de vous souhaiter à tous la bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est correct.
On t'entend très
grand,
bien.
Grand merci. Parfait,
on
merci.
Très bien.
Un grand merci en tout cas à vous tous d'être là avec moi aujourd'hui. Je vous avoue qu'en fait, je suis le premier étonné à être là, à faire une téléconférence, parce que en fait, le cheminement à celui-ci, il y a quelques mois, j'étais avec mon coach mentor, un certain Jean-Pierre Béquier, je crois que vous connaissez tous, et il m'a lancé un défi. Il m'a dit, Jean-Luc, tu devrais faire des conférences. Ah, alors là, j'étais le premier étonné. J'ai dit, alors j'ai pensé tout de suite, évidemment, aux téléconférences de coaching de gestion. J'ai dit, moi, présenter une téléconférence à des coachs, moi, j'ai rien à apprendre à des coachs, j'ai aucune leçon à donner à personne, je vois vraiment pas ce que je pourrais apprendre à des coachs. Et puis, avec deux, trois petites questions laser dont Jean-Pierre a le secret, j'ai pris conscience que, ben, oui, bien sûr, un coach n'a rien à apprendre à personne. Un coach a peut-être des pistes à donner. Donc, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que pendant cette téléconférence, je vais strictement rien vous apprendre, mais bon, j'espère vous donner des pistes qui vous serviront à vous, à vos clients. Elles sont là, je les pose sur la table, servez-vous. Ce petit préambule fait, je vais mettre ma pudeur, mon humilité de côté, je vais les mettre au placard et je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours. Je m'appelle donc Jean-Luc Fenning, ou Penning selon les lieux. Je suis né à Bruxelles, en Belgique, en 1960. J'ai une jeunesse tout à fait classique, normale. J'étais plutôt indépendant, solitaire, toujours dehors dans la nature, amoureux de la nature. Et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers les études d'ingénieur agronome, qui se sont très bien passées. J'ai eu un premier emploi pour les Nations Unies, pour la FAO, au Rwanda, qui est un pays merveilleux, le Rwanda, malgré la triste image qu'il porte maintenant. Tellement merveilleux que je suis parti là-bas célibataire et 3 ans après, je suis revenu marié avec 3 enfants. J'ai continué ma carrière comme ça, un peu aux Nations Unies et pour différents bureaux d'études. Et en 92, 92 pour mes compatriotes, nous sommes partis nous installer au Burundi. Le Burundi, c'est un tout petit pays qui est juste en dessous du Rwanda, en plein centre de l'Afrique. Un réel paradis. 25 degrés toute l'année, un superbe lac pour faire du bateau le week-end, des tennis pour aller jouer presque tous les jours avec mon épouse, des piscines pour se baigner presque tous les jours aussi, une école belge exceptionnelle pour les enfants, vraiment un réel paradis. En plus de ça, oui, évidemment, j'ai oublié de vous dire, j'avais 2 motos dans le garage pour les balades dans les collines avec les amis. Le week-end. En plus de ça, comme vous l'a dit Nadine, j'étais là-bas pour réaliser un rêve. En fait, je démarrais une entreprise de production de plantes ornementales pour l'exportation. Vraiment un rêve pour moi. Je partais le matin, à 7h du matin, je déposais les enfants à l'école, je longeais le lac Tanganyika, je regardais les hippopotames qui allaient se baigner. Et puis j'arrivais sur mon terrain, une dizaine d'hectares à quelques kilomètres de la ville, et là où je travaillais avec une vingtaine de paysans, des travailleurs, des gens de la terre, des gens ouverts, des gens simples. Bref, un réel paradis. Malheureusement, le paradis n'a pas duré longtemps. 2 ans après notre installation, ben, il y a eu un coup d'État. Hein. Le président qui venait à peine d'être élu a été assassiné et a commencé une longue et difficile période de chaos, de guerre civile, de guerre ethnique qui a duré en fait 13 ans, qui vient de se terminer maintenant. Mais bon, nous sommes restés quand même au Burundi parce que ben, ça restait un paradis. Et même si de temps en temps, la nuit, ben, on entendait des tirs de Kalachnikov ou il y avait des couvre-feux, ben, on est resté là, on était bien. La preuve, c'est que mes enfants, je crois que leur premier rêve, c'est de retourner là-bas, de revenir au Burundi un jour. Tout ça, donc, on a continué notre petit bonhomme de chemin jusqu'au 25 août 95. Ce jour-là, je devais absolument aller sur mon terrain parce que, ben voilà, il y avait mes nouveaux clients, il fallait les satisfaire, il fallait faire un envoi de plantes. Il y avait pas mal de tensions, il fallait traverser un quartier populaire qui était entièrement désert parce que tout le monde avait fui. Bon, il y avait beaucoup de tensions. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce jour-là, en fait, pour la première fois, j'ai téléphoné à un ami colonel et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait de la situation. Il m'a dit, pas de problème Jean-Luc, tu peux y aller, là, nous maîtrisons la situation. Je suis parti, j'ai donc traversé cet endroit, ce quartier vide. Je suis arrivé sur mon terrain, mes travailleurs toujours fidèles au poste étaient là. J'ai donné les instructions, je suis reparti, je suis remonté sur la route principale, et là au loin j'ai vu un camion militaire arriver, je dis bon, ok, je suis en sécurité, tout va bien. Alors là, ce que je vais vous raconter maintenant, en fait, je vais vous raconter d'après des faits, parce que mon cerveau a fait le blackout total sur ce petit passage de ma vie. Bon, c'est le secret de la mémoire. Donc j'étais sur la route, et puis le camion militaire m'a rattrapé, m'a dépassé. Au moment où il m'a rattrapé, ben, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont poussé dans le fossé, et je me suis retrouvé bloqué dans ma voiture, dans le fossé. Un homme est descendu du camion militaire, est venu pour m'achever, il a déposé son pistolet sur ma tempe et a tiré, à bout portant. Pendant ce temps-là, mon épouse était très inquiète, elle sentait que quelque chose n'allait pas, elle essayait de me téléphoner. Je venais d'acheter à peine une semaine avant un des premiers téléphones portables. Elle appelle, pas de réponse. Puis à un moment, elle appelle et puis quelqu'un lui répond, ben, vous savez, l'Européen, il est mort. Elle est étonnée, elle rappelle, on lui donne la même réponse. Alors elle a le bon réflexe, tout de suite elle contacte l'ambassade de Belgique, il y avait des paracommandos qui étaient là, attachés à l'ambassade de Belgique. Ils viennent sur le terrain, il y a un premier qui descend, il dit « bof, il n'y a rien à faire ». Puis un deuxième que j'ai rencontré depuis, qui dit « écoutez, non, 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 c'est moi l'infirmier de la bande, je vais voir ». Il vient et il constate que en fait j'étais encore vivant. Commence un long parcours, rapatriement sur Nairobi et puis sur la Belgique. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ça se fait une petite parenthèse, mais en fait, je suis resté tout à fait conscient, les gens parlaient, à Nairobi, je parlais en anglais, etc., alors que moi, je n'ai aucun souvenir de cette période. Donc, je vous dis, retour en Belgique, toute la famille s'installe chez mes parents, enfin bon, et moi, je subis, en tout, j'ai subi 8 opérations, pour vous dire, les deux premières ont duré à peu près 12 heures. Le chirurgien, en fait, s'est basé sur mon maxillaire inférieur pour reconstituer tout mon visage, toute ma face. Un travail de titanesque. Mais bref, le verdict est vite tombé, il était là, j'entends plus d'une oreille, j'avais perdu l'ouïe d'une oreille, celle qui était du côté du pistolet, j'ai perdu tous mes sinus et l'odorat, j'ai un œil qui a été emporté, l'autre, le nerf optique a été touché, et le verdict est là, bon, j'étais aveugle. Je dis commence alors un très très long parcours, les changements de domicile, on va s'installer dans l'appartement. Bon, poussé par ma famille, je contacte assez rapidement la Ligue Braille, qui est une association en Belgique qui s'occupe justement des aveugles. Il faut tout réapprendre, apprendre à se déplacer, apprendre à s'habiller, apprendre à se repérer quelque part, à se déplacer avec une canne blanche. J'ai pris une formation très intéressante. En fait, j'ai appris à travailler sur un ordinateur tout à fait classique. J'ai appris, à tout comme bonne secrétaire, à utiliser un clavier sans le voir, sans le regarder, à connaître les touches par cœur. Et avec un système de synthèse vocale, je pouvais travailler sur un ordinateur. À ce moment-là, en fait, la personne de la Ligue Braille, l'assistante sociale qui m'avait pris en charge, m'avait dit, vous savez qu'un cas comme vous, il faut 10 ans pour accepter. Mon réflexe a été à ce moment-là de dire, non, moi, il ne faudra pas 10 ans. Après 5 ans, quoi, j'aurais accepté. Eh bien non, elle avait raison, il faut bien 10 ans, si pas plus. Mais je reviendrai sur ce qu'elle m'a dit à ce moment-là, un peu plus tard, dans la conférence. Donc je vous ai dit, il y a un long parcours, mais bon, il y a de l'action, il faut bouger, j'ai des enfants, j'ai une société qui tourne toujours au Burundi. Déjà, à peine un an après ce que j'appelle plus pudiquement mon accident, parce que j'étais vraiment pas visé, c'est vraiment un concours de circonstances, je retourne au Burundi un mois, parce qu'il y a entre-temps, il y a eu un embargo, il fallait déplacer ma société. Et puis bon, je reviens, et puis en 97... Avec mon épouse, on voit bien que nos enfants ne s'adaptent pas à la Belgique. On dit, bon, il faut retourner au Burundi. On y retourne. En fait, a posteriori, je me dis, ben voilà, on n'avait pas tourné la page. On nous a fait forcer à tourner une page qu'on ne voulait pas tourner. Il fallait qu'on y retourne. On s'installe. Je suis évidemment, difficilement, mais je suis quand même, en fait, les activités de ma société. Mon épouse se lance dans un magasin, dans une entreprise d'entretien du bureau. Évidemment, bon, il m'en manque pas mal d'activités. J'ai perdu toutes mes activités précédentes. Alors je cherche. Je suis à gauche, à droite. Bon, je vous ai pas dit, j'aimais la photo, le dessin. Évidemment, je vais remettre une croix dessus. Bon, j'avais peut-être une petite fibre artistique. Je me dis, tiens, bon, voilà, je vais apprendre la guitare. Je rencontre un superbe professeur qui est devenu un ami extraordinaire. On a depuis lors créé ensemble le premier studio numérique d'enregistrement du Burundi. Et même en 2005, j'ai fait un CD en fait avec lui, un superbe parcours. Je vous ai dit, bon, j'essaie de toucher à tout, bon, je fais partie du conseil d'administration de l'école belge. Oui, ça c'est une expérience très intéressante, je voulais partager avec vous. J'ai même donné des cours particuliers de maths. Et ça c'est vraiment fabuleux, parce que vous voulez dire, comment est-ce qu'un aveugle peut donner des cours particuliers de maths, c'est pas possible. Eh bien si, justement, parce que comment fait un professeur de maths classique? L'enfant vient et dit « Ah, j'ai pas compris ça ». Et le prof de maths explique 10 fois, 100 fois, jusqu'au moment où il croit que l'enfant a compris. Moi, c'est le contraire. Je sais rien expliquer à cet enfant. Je sais même pas de quoi il parle, qu'est-ce qu'il a dans son cours. Donc, c'est lui qui doit m'expliquer. C'est lui qui vient avec son cours. Et évidemment, moi, après 30 secondes, j'ai compris où est le problème. Parce qu'il y a un moment dans son raisonnement, un moment, il coince. Ben, c'est là qu'il n'a pas compris. Et autre chose extraordinaire, c'est que quand il y a quelque chose, tout ce qui est géométrie, comment est-ce qu'il doit me l'expliquer? Il peut, pour lui, par exemple, le triangle de Thalès, c'est pas 3 lignes sur un papier, il doit m'expliquer ça avec mes mains. Alors il prenait mes doigts, il prenait mes mains, on prenait un bic, et il visualise sa géométrie. Et donc j'ai eu des résultats très très intéressants. Bon, j'avoue, je n'ai pas creusé cet aspect parce que il y a l'aspect répétition, exercice, etc. Mais enfin, je crois que c'était vraiment une expérience très, très intéressante, très enrichissante pour tous. Dans la continuation des ma recherche d'activité, ben, en 2001, avec un ami qui travaillait dans la publicité, on décide de créer, en fait, ici, au Burundi. Je dis ici parce qu'en fait, je suis au Burundi maintenant. On a créé une ONG qui s'appelait Menia Media et qui était spécialisée dans la communication. Ironie du sort, un des premiers projets qu'on a eu était un projet d'affiche de prévention sur le thème de la prévention sida. Et comme j'avais toujours mon œil de photographe dans ma tête, ben en fait c'est moi qui ai conçu l'affiche. Je ne l'ai pas réalisée évidemment, mais je l'ai conçue, j'ai eu l'idée. Elle a eu un succès énorme, elle a été copiée en Europe et ça a eu un impact extraordinaire. Donc une expérience fabuleuse dans cette ONG, à travailler avec des jeunes, à les faire bouger, à les faire avancer. Une expérience très intéressante. Je résume un peu. En 2003, bon, nos enfants ont grandi entre-temps. On envoie les 2 grands en Europe pour leurs études. Et en août 2003, bon, mon épouse et moi, on rentre pour les vacances. On se rend compte, ben non, les enfants, ça va pas trop en Europe. Ils s'en sortent pas tout seuls. Et on décide de rester en Europe. On tourne vraiment à la page du Burundi. À ce moment-là, on était prêts. Peut-être pas nos enfants, mais bon. donc on s'installe en Belgique. Mon épouse se reconvertit aussi. Elle se lance dans le métier d'une formation de pédicure médicale. Ça marche très bien. Maintenant, elle travaille dans un hôpital. Elle a sa clientèle. Et moi, j'avoue, je me tourne un peu en rond. Et à ce moment-là, il y a mon frère qui me dit, mais tu sais, dans notre association d'ingénieurs, il y a un coach, un type très bien. Je dis, ah bon, je savais pas du tout ce que c'était, je vais le rencontrer. C'est vrai que c'est un type très bien, on est d'ailleurs devenus amis très très proches, quelqu'un d'extraordinaire. Et on arrive assez rapidement à la conclusion que, ben oui, Jean-Luc, il a des capacités d'écoute, il a un parcours qui peut être intéressant, il est indépendant, il peut travailler par téléphone, donc... La voie du coaching est peut-être pas mal, c'est peut-être une piste intéressante à creuser. Alors je me renseigne au niveau des études et je tombe sur un programme qui me paraît très intéressant, qui s'appelle coaching de gestion et qui est tout à fait à ma hauteur parce que bon, je reçois des modules par internet, c'est parfait, avec ma synthèse vocale j'y ai accès sans problème. Et puis les classes se passent par téléphone, donc j'ai pas le problème de déplacement, c'est parfait, excellent. Et je me lance dans une formation. Alors là, je fais une petite parenthèse et je tiens vraiment à remercier Nadine et toute l'équipe de coaching, de gestion. Je ne vais pas citer tout le monde, mais Simon, Lucie, tous les formateurs. Un grand merci pour votre accueil, pour votre ouverture, pour votre implication. Ça a été vraiment extraordinaire. Vous m'avez vraiment facilité la vie et j'ai vraiment senti votre soutien. Et ça, je vous dois un énorme merci. Donc voilà, je me lance dans les études. Entre-temps, il y a deux petites cerises sur le gâteau qui se présentent. Il y a à peu près 4 ans, mon épouse tombe enceinte, ce qui est pas mal pour mon orgueil, parce que ça prouve quand même qu'un handicapé est capable d'amour. Mais bon, je vous avoue que ça a été très dur au départ. Comme tout bon mâle qui se respecte, il m'a fallu à peu près 9 mois pour accepter ce qui arrivait, accepter ce qui se passait, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit bonhomme Comment je pourrais pas jouer au football avec lui, je pourrais pas me promener dehors, je pourrais pas lui apprendre la nature. Mais bon, voilà, maintenant j'ai un petit garçon, il s'appelle Raphaël, il a 3 ans et demi, c'est extraordinaire. Quand il se rend pas compte, bien évidemment, tout à fait de la situation, mais quand il veut montrer quelque chose, il dit, regarde papa, il prend ma main, il met ma main sur son jouet. Quand il veut jouer avec moi, il me dit, viens papa, il me prend la main, et il écarte les jouets qui sont sur le passage. Et quand il veut montrer quelque chose à la TV, il me dit « Écoute, papa ». Il ne me dit pas « Regarde, papa ». C'est assez extraordinaire comme parcours. Une deuxième cerise sur le gâteau, il m'arrive une histoire de fou, une histoire extraordinaire, pleine d'amitié et de choses fabuleuses. En fait, je vous appelle, là, je vous parle du Burundi, parce qu'il y a, 2 ans, en 2007, j'étais là, en fait, je m'occupe toujours de mon ONG, donc j'ai un pied au Burundi, je viens de temps en temps en mission ici. Et en 2007, donc, il y a le Centre culturel français qui lance un concours de court-métrage, de scénario de court-métrage. Alors on rassemble l'équipe de notre ONG, on dit, nous, on est dans la communication, on doit faire quelque chose. Et puis, il y a quelqu'un de l'équipe qui dit, tiens, il faudrait parler du problème ou tout aussi... Je dis, tiens, on peut parler de ça maintenant, c'est plus un sujet tabou. On dit, oui, oui. Et ça m'inspire. Et en 2 jours, j'écris le scénario d'un court-métrage qu'on soumet au Centre culturel français. Je gagne un premier prix. Je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose dans ce court-métrage. En fait, c'est un court-métrage qui porte des messages de paix, de réconciliation, qui dénonce l'absurdité de toute guerre, l'absurdité de toute lutte ethnique, du racisme, de tout. C'est un appel à la paix. Et il est tellement bien reçu que bon, je le transmets à un ami réalisateur belge qui tombe sous le charme, il adopte. Et en 2 ans, enfin, on travaille là-dessus, on a obtenu des budgets pour tourner ce film. On vient d'obtenir d'ailleurs une aide de l'UNESCO, pour dire l'impact qu'il a. Donc là maintenant je suis au Burundi, on est en train de faire le casting, faire le repérage. Et au mois d'août, on sera 50aine de personnes sur le terrain pendant 1 semaine pour le tournage de ce film. Donc une superbe aventure, vraiment extraordinaire pour moi et pour ce travail d'équipe. Comme je vous disais, je reviens un peu au début. Je vous avais dit qu'à la Ligue Braille, une dame avait dit il faudra 10 ans pour accepter. Elle avait dit tout à fait raison, il faut 10 ans, il faut laisser le temps au temps, il faut plus de 10 ans, mais pas pour accepter, parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Je ne peux pas accepter qu'un jour j'ai croisé un imbécile, un inconscient qui a brisé ma vie et surtout qui a touché à la vie de mes enfants, à ma famille. Donc je ne peux pas accepter l'inacceptable. Mais par contre, on peut dépasser l'inacceptable. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Maintenant, à l'heure que je vous parle, je suis donc un jeune papa, je suis même un jeune papy. Je suis toujours entrepreneur, même si j'ai évidemment beaucoup délégué mon travail. Je suis chargé de programme d'une ONG, c'est-à-dire que c'est moi qui rédige tous les documents de projet, qui suis l'équipe, qui rédige tous les rapports et qui représente notre ONG en Europe. Je suis membre de différents conseils d'administration et de différentes associations. Je m'occupe d'artistes aussi, je fais la promotion d'artistes. Et puis, évidemment, je suis, je crois que je peux le dire, coach professionnel. Je me suis spécialisé en fait dans le franchissement d'obstacles ou comment faire de vos faiblesses des forces, comment transformer vos problèmes en tremplin ou comment transformer vos handicaps en atouts. Voilà un peu la situation, mon parcours. Il a peut-être été un peu long, mais bon, je crois qu'il fallait s'y arrêter, il était important. J'en viens maintenant en fait au sujet réel de cette téléconférence que j'ai intitulée « Regard de coach ». Évidemment, c'est un clin d'œil à ma situation. Je voulais voir un peu comment, maintenant que j'ai suivi la formation en coaching, etc., comment est-ce que je pourrais observer et regarder et suivre en fait quel est mon parcours. D'abord, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ce que j'appelle, en fait, je suivais une route, un chemin très bien tracé, une ligne tracée par terre, et j'ai fait un changement de direction, mais pas un changement à 90, ni à 180, encore moins 360. C'est ce que je dirais ironiquement, un changement de direction à 3600 ou 5000 degrés, peu importe le chiffre. Donc je suivais une ligne bien tracée et la vie, une fraction de seconde, m'a fait tourner sur place. Et je crois qu'on a tous fait ce jeu-là quand on était enfant, on tourne sur place et puis quand on s'arrête, on a perdu la tête. On ne sait plus où on est, on fait un pas à gauche, un pas à droite. Et quand on retrouve les esprits, on se rend compte que le chemin qui était devant, il n'est plus là. Et le chemin derrière, il n'est pas là non plus. C'est un peu aussi comme le navigateur qui est... Il prend son cap, il installe son pilote automatique, il dit « bon, je vais me reposer un peu dans ma bannette » et puis entre-temps passe une déferlante. Et il se retrouve le matin dans un radeau de fortune, il n'a pas de boussole, il ne sait pas où il est, il a une rame. Il se dit « bon, maintenant, je vais où avec cette rame ?» C'est un peu ça mon parcours et le parcours de tous les gens qui, comme moi, ont eu un traumatisme, quelque chose de grave dans la vie. Alors, ce que je voulais voir un peu partager avec vous, c'est voir un peu qu'est-ce qui m'a aidé à dépasser cette situation avancée. La première chose évidente, c'est le sens. J'ai très très rapidement donné un sens à ma vie. Je n'ai pas été chercher loin, j'avais des enfants. Et pour mes enfants, il fallait qu'ils aient un papa. Et que ce papa soit un homme debout, soit pas une larve qui traîne au lit, soit pas un torchon, soit quelqu'un d'actif, qui a sa place, qui est là. Et mes enfants, et particulièrement... Oui, mes trois enfants, et surtout le petit qui à peine avait 6 ans à ce moment-là, sans m'en rendre compte, tous les matins, je dirais toutes les 5 minutes, il me donnait un coup de pied derrière, il me disait « debout, papa ». Et ça, c'est le sens qui était fondamental, la première étape. Autre chose très importante qui m'a aidé à avancer, c'est la confiance. J'ai eu un entourage extraordinaire, j'ai une épouse fabuleuse, il y a plein de gens qui lui ont dit, qui avaient parié que, voilà... Être épouse d'un handicapé, c'est pas possible, et qui avait parié qu'elle me quitterait. Mais non, elle est restée là, à côté de moi, en me faisant 100% confiance et en m'aidant dans toutes mes démarches, dans toutes mes avancées. Ça, c'est fondamental. Je remercie au passage aussi mes parents qui m'ont éduqué dans un esprit de confiance, d'ouverture, de simplicité. Et maintenant que je vous parle, je me dis qu'en fait, la seule chose que je peux donner à mes enfants, c'est la confiance. Évidemment, ajouter ça à la connaissance, les études, au départ la confiance. Parce qu'avec la confiance, on peut dépasser tout. On peut dépasser les crises, on peut dépasser les problèmes. Et ça, c'est vraiment fondamental. Une autre chose importante qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que j'ai très très vite dépassé la problématique. Nous avons vu en coaching, je ne sais plus je ne sais plus dans quel module c'est, Nadine, si tu pourras me le rappeler plus tard. On a appris que la question « pourquoi » est une très mauvaise question en coaching. Eh bien, je dirais même plus loin que dans la vie, c'est une très mauvaise question. Pourquoi est-ce que ce jour-là, j'ai été sur le terrain? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment? Il n'y a absolument aucune réponse. Donc, cette question est stupide, elle n'apporte rien. Et je vais même aller plus loin, je vais peut-être aller un peu être caricatural et vous dire que je peux presque remercier le Burundi dans la mesure où ce sont des militaires qui m'ont tiré dessus. J'en suis pas sûr à 100%, mais presque. Et comme c'est l'armée qui avait la justice, qui avait tout, donc je n'avais aucun recours en justice. Et quelque part, ça m'a servi parce que j'étais obligé de sortir de ce cercle infernal de la recherche de la vérité, de qui, mais pourquoi, de la justice, etc. J'ai dû dépasser ça très rapidement. Et je crois que ça m'a été utile. Vous voyez tout de suite, en fait, les parallèles que je veux faire, évidemment, avec le coaching. Et comment sortir de la problématique, si ce n'est en se mettant en action? Je vous les ai dit, je n'ai pas eu le temps de tout raconter, mais j'ai fait toutes sortes, j'ai essayé. Et je dirais, peu importe l'action, toutes les actions sont bonnes à prendre, elles sont importantes. Pour construire une maison, il faut des fondations, il faut des murs de soutènement, mais il faut aussi des murs de décoration, des murs qui, à la limite, un jour, on peut éliminer et faire disparaître. J'ai fait ACD, j'ai fait des concerts, je ne serai jamais une vedette de la chanson, c'est vraiment, je vous ai dit, j'ai donné des cours de maths, bon, j'en ai peut-être donné 5 ou 6, c'est pas une pièce fondamentale, mais c'est une pièce qui m'a aidé à me construire, à avancer, à me redresser. Donc pour moi, c'est très très important de l'action, la mise en action, et je répète, peu importe l'action, il faut être en action. Autre chose qui m'a aidé, c'est au niveau des objectifs. Évidemment, quand on est comme ça, victime d'un accident si grave, on ne se donne pas des objectifs. Je vous avoue, franchement, entre nous, qu'un de mes objectifs au départ, c'était d'en finir directement et d'arrêter ma vie là. Mais ce qui est important, c'est que je n'ai pas pris des mauvais objectifs. J'ai une tante qui, depuis maintenant presque 14 ans, me dit tous les jours que dans 10 ans, on va trouver un système pour m'opérer, que je pourrais retrouver la vue. Heureusement, je n'ai pas pris cet objectif, parce que c'est un objectif nul. Si je l'avais vraiment suivi, ben, je serais encore dans mon fauteuil, à attendre le bon vouloir d'un médecin quelque part sur la planète Terre, qui viendrait s'occuper de moi. Donc l'importance d'un objectif à maîtriser, à tenir. Autre chose qui m'a aidé, évidemment, c'est le temps. Je vais peut-être être un peu contradictoire, mais le fait de se retrouver des heures à ne rien faire, à tourner en rond, ça vous aide à construire, à voir plus clair et à permettre d'avancer. Une dernière chose qui m'a aidé, c'est le coaching, mais ça je garde pour la bonne bouche, je vais y revenir après. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que ce que j'ai appris de ce parcours. Je vais faire un résumé, mais la première chose que j'ai appris, c'est que le potentiel, et je reviens au sujet de la conférence, c'est que le potentiel humain n'a aucune limite, mais vraiment aucune limite. Pendant 30 ans, j'étais quelqu'un plutôt de solitaire, de un peu sauvage, tout le temps dehors dans la nature. Maintenant, je suis un homme, je crois, ouvert à tout. Je peux passer 15 jours chez moi, devant mon ordinateur, sans bouger, et en étant épanoui. Un autre exemple, quand j'avais 12-13 ans, j'ai voulu apprendre la guitare. J'ai été un an à l'académie et j'en suis sorti en sachant à peine jouer J'ai du bon tabac et en étant persuadé que la musique c'était vraiment pas fait pour moi, j'étais nul là-dedans et que voilà, que j'avais pas d'oreille musicale, je saurais rien faire. Et 30 ans après, ben, je prends une guitare, je fais un CD, j'ai même fait quelques concerts, tout à fait amateurs évidemment, j'ai fait danser des gens avec ma guitare. Ça pour vous dire que le potentiel n'a aucune limite. J'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas si ça s'appelle une sentence ou quoi, qui dit « il l'a fait parce que personne ne lui avait dit que c'était impossible. Tant qu'on n'est pas persuadé que c'est impossible, c'est que c'est faisable. » La bonne preuve, c'est qu'un aveugle qui fait de la photo et qui fait du cinéma, mais bien sûr que c'est tout à fait impossible, mais impossible. Autre chose que j'ai appris, c'est le jugement. On a vu en coaching que le jugement est quelque chose, je dirais, carrément compliqué, inutile, qui est ridicule. Au début, j'ai beaucoup d'amis, des proches qui n'osaient pas venir me voir. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient dire, ils allaient venir me voir, ils allaient dire quoi ? Ils allaient dire, bonjour Jean-Luc, comment ça va ? Tu sais, il fait mauvais dehors, tu sais, j'ai une panne à ma voiture. J'ai même un ami qui, pendant presque une année, n'a pas osé me dire qu'il s'était séparé de sa femme parce qu'il trouvait ça tellement un sujet anodin comparé à ce qui m'était arrivé. Non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de hiérarchie dans le malheur. Je ne suis pas plus malheureux que la voisine qui a perdu son chat. Il n'y a aucune hiérarchie. Tout le monde a sa vision des choses, a sa conception des choses. La notion du jugement, pour moi, est une notion tout à fait absurde et ridicule. Qui peut juger ? Personne. Une autre leçon, une autre que j'ai appris, c'est la notion de deuil. J'en ai discuté pas mal aussi par intermédiaire de mail avec Nadine. Pour moi, les choses sont très claires. Faire son deuil, que ce soit d'une personne, que ce soit d'un emploi, que ce soit d'une activité, peu importe, faire le deuil, c'est trois étapes. La première étape, je vous l'ai dit, c'est arrêter de se poser la question pourquoi. La deuxième étape est une étape très difficile. C'est l'étape où il faut fermer les portes qui se sont fermées elles-mêmes. J'ai dû fermer la porte de la moto, j'ai dû fermer les portes du tennis, j'ai dû fermer les portes de la photographie, etc. C'est dur, mais il faut les fermer soi-même et apprendre à les fermer. Et la troisième étape, elle est très intéressante. C'est l'étape où il faut ouvrir les portes. Parce que peu importe le deuil, peu importe le handicap, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et il y a toujours des portes à ouvrir. Et ça, c'est une étape qui peut être vraiment très intéressante et constructive. Une dernière chose que j'ai appris, c'est à faire un bilan. Et là, je dois remercier énormément Jean-Pierre avec son fameux défi de faire une téléconférence. Et il m'a vraiment eu. C'est que, entre autres, en plus du fait de devoir partager avec d'autres personnes, ça m'a obligé à toute une démarche. De me dire, oui, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire ? Et de faire un bilan. Et c'était vraiment très, très enrichissant pour moi. Ça m'a aidé un peu à m'affirmer et à me sentir bien, en fait, dans mon parcours, dans ce que j'ai fait. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur un point important qui m'a aidé comme je vous ai dit, à dépasser l'inacceptable. C'est évidemment le coaching. Quand je suis arrivé à la Libra, il y a 14 ans maintenant, je ne sais plus, je ne compte pas, on m'a présenté des activités possibles. Et une des activités, c'était de se retrouver dans un atelier fermé, un atelier pour handicapés, à refaire le paillage de chaises. Eh bien non, après toutes ces années, je ne suis pas dans un atelier fermé à empailler les chaises. Je suis coach professionnel. Moi qui étais ingénieur agronome qui faisait pousser des plantes, eh bien non, j'aide des gens, des hommes, des femmes à pousser, à grandir. Je suis là, il y a des gens, j'ai des jeunes, j'ai des cadres, j'ai une dame pensionnée, une architecte de 62 ans, qui viennent me voir et qui me disent « Jean-Luc, aide-moi, je voudrais avancer plus loin, prends-moi la main, aide-moi. » Et ça, c'est extraordinaire, c'est d'une force, vous ne pouvez pas savoir. Ça vaut qu'on reconstruit un homme. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai un peu dépassé le temps, veuillez m'en excuser. Je suis ouvert là à toutes les questions. Il n'y a pas de questions tabous, surtout pas. J'ai dépassé ce stade. Vous pouvez me demander mon point de vue. Je vous le donnerai avec grand plaisir.
Jean-Luc ?
Oui.
C'est Caroline. Allez-y, j'ai dit après.
Ok, Daniel.
Oui.
Jean-Luc, évidemment, c'est une résilience extraordinaire et c'est puissant ce que vous avez réussi à faire et touchant, extrêmement touchant. La question que je voudrais vous poser, c'est par quoi est-ce que vous avez remplacé le pourquoi ?
J'ai remplacé par l'action. Une question qui n'a pas de réponse, pour moi, est une question inutile. Je vais vous donner un autre exemple de pourquoi, et malheureusement, je connais le cas. J'ai des gens, par exemple, chez les gens qui sont alcooliques ou drogués, ils se posent aussi la question de pourquoi ils en sont arrivés là. Et eux, c'est le contraire. Moi, j'avais pas de réponse. ils vont trouver 10 réponses, 100, 20, 1000 réponses. Parce qu'il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque part. Et tant qu'ils sont dans la recherche du pourquoi, ils n'avanceront pas. Ils ne sortiront pas de cette question et de cette recherche des origines. Il faut dépasser. Moi, je crois que c'est fondamental de sortir de cette question et de la problématique. Et c'est ça qui permet d'avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, tout à fait. Merci.
Merci à vous.
Et Caroline Chantienne. Moi, j'avais une question. J'ai bien compris, je pense, le message que l'action nous aidait à nous construire à chaque jour. Puis c'est ce qui faisait qu'on était une personne en évolution. Mais moi, ce que j'entendais, ou ce que je comprenais aussi, c'est que souvent, ce qui empêche de passer à l'action, ce sont les peurs des gens ou la message qui est tellement une notion difficile à expliquer. Comment, toi, j'ai pas entendu le mot peur ou courage dans ton dans ce que tu nous as expliqué. Comment tu fais pour passer par-dessus ces peurs-là qui devaient être sûrement vivantes à l'intérieur de toi?
Question difficile. Je sais pas, je crois que c'est clair que bon, le regard des autres est important. Mais surtout dans mon cas, quand on ne sait pas ce que les autres pensent, quelque part je dirais presque c'est presque un avantage. Parce que souvent je vois auprès de mes proches, souvent eux sont mal à l'aise parce qu'ils savent que bon, dans la rue, beaucoup de gens me regardent. Et moi en fait je m'en fous carrément. C'est leur problème. C'est leur problématique. Si croiser un handicapé dans la vue est un problème pour eux, c'est vraiment dommage. C'est que eux sont mal dans leur peau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la peur, je vous ai dit à un moment aussi que la confiance est très importante. Donc je crois qu'une fois qu'on a confiance, on dépasse la peur. Et le fait de se mettre en action, on dépasse la peur. Je crois que mon entourage a plus peur que moi. Là, je vous dis, je suis au Burundi, je suis venu seul dans un avion. Il y a une charmante hôtesse qui s'occupait de moi. Il n'y a pas de place pour la peur quand on avance.
Ok, merci.
Une question.
Oui. Mon cher Jean-Luc.
Oui, je vous écoute. Oui.
C'est Jean-Pierre.
Oui, Jean-Pierre. Comment vas-tu?
Ben, ça va très bien, merci. Deux choses. D'abord, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir touché, déjà, premièrement. Deuxièmement, bravo d'avoir exécuté ta requête. Et puis, troisièmement, c'est ma question. Comment tu te sens maintenant, après avoir partagé avec nous tous?
Mais je me sens très bien. C'est vrai, moi, à mon tour, de te remercier énormément pour cette requête, ce fameux défi. Comment je me sens? Oui, non, je me sens bien. Je me sens apte à transmettre quelque chose aux autres. Autrement que par laisser venir les gens à moi, je crois que maintenant, je peux aller vers les gens, leur dire, ok, je peux vous apporter quelque chose. C'est plus du coaching, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être du conseil, non, je ne sais pas. Non, ça reste du coaching, ça reste de l'écoute. Et oui, non, c'est clair, je me sens renforcé dans cet aspect-là. Je dis oui, je peux servir à quelque chose, je peux être utile à quelqu'un, à tout un chacun. Et ça, c'est fondamental dans ma vie, dans mon fait de me tenir debout.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Jean-Pierre. Merci pour tout, pour ton encadrement, ton soutien. C'est extraordinaire.
Jean-Luc.
Oui.
Jean-Luc, c'est Denise.
Oui, bonjour.
D'abord, tout ce témoignage me touche énormément. Tout le chemin que tu as fait, vraiment, ça me touche principalement parce que mon fils a eu un grave accident. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse entendre cette conférence. Et je pense que ça pourrait l'aider énormément de voir ce que tu as réussi à faire. Et je me demandais si c'était possible de recevoir une copie de cette conférence-là.
Ça, au niveau pratique, évidemment, ça, il faut voir avec Nadine. Mais sinon, volontiers, si je peux...
Jean-Luc, tu me permets?
Oui, je t'en prie.
pour tous les membres de l'Académie du coaching, les téléconférences vont être mises en ligne dans les prochaines semaines. Donc, vous pourrez les télécharger. Et dans le site public, on va probablement rendre les téléconférences disponibles aussi. Et vous pourrez les obtenir avec en utilisant PayPal. C'est pas encore en place, mais dans l'accès réservé aux coachs, ça devrait prendre quelques semaines tout au plus.
Super. Alors, Jean-Luc, toi qui disais que tu voulais aider des gens, je suis persuadée qu'éventuellement, ça va être de très grand support pour mon fils. Merci. Merci beaucoup.
Volontiers, la porte est grande, grande ouverte.
Je prends l'occasion tout simplement pour dire qu'il reste environ 14 minutes. Donc, posez les questions, faites vos commentaires, vos témoignages. Vous êtes les bienvenus. Il y a d'autres questions? Faites étoile 6 si vous désirez intervenir.
Jean-Luc.
Oui.
Bonsoir, c'est Leïla de Tunisie. Ça me fait un grand, grand, grand plaisir de t'écouter et d'avoir partagé un moment extraordinaire avec toi et d'avoir eu la possibilité d'écouter un parcours aussi exceptionnel. Et autant d'humilité et franchement extraordinaire. Moi, je voudrais te poser la question suivante. C'est que j'aimerais savoir dans quelle mesure ton parcours a donné de la puissance à tes coachings et en donnera encore.
La question délicate. Je suis en fait en démarrage en coaching, donc j'ai pas encore vraiment une pratique. Ce qui est certain, c'est que ou mon handicap, je dirais, est rébarbatif et les gens en ont peur, ou alors ils rapprochent. Le fait que je ne vois pas, que j'ai un parcours comme ça, interpelle les gens. Donc ça intervient à ce niveau-là. À un niveau évidemment évident, c'est que je suis 100% à l'écoute des gens et que je peux évidemment témoigner et aller dans le sens de coaching de gestion, de dire que ben voilà, le télécoaching ça marche parce que même sans voir, on peut très très bien coacher. Donc que ce soit au téléphone ou en vis-à-vis, c'est important. Je crois que oui, ce que j'ai remarqué bon, avec mes quelques clients, c'est ça, c'est que mon parcours les interpelle et leur dit que ben voilà, il y a pas de limite. On peut avancer. À ce niveau-là, je crois, oui. Mais malheureusement, je suis un peu mal passé pour répondre dans la mesure où voilà, je suis vraiment en démarrage. Je crois que j'ai oublié de dire, en fait, je viens de terminer mon deuxième cycle. Je suis en période d'examen, j'ai mon oral demain, en fait. Et bon, j'ai quelques clients. Donc, je suis vraiment en plein démarrage. Je crois que je serai plus apte à vous répondre dans quelques temps, dans quelques années.
Ben écoutez, bon courage et vraiment bonne continuation.
Merci beaucoup. Merci pour votre soutien.
Je me permets d'intervenir. Jean-Luc nous a envoyé, il y a plusieurs mois, une photo d'un de ses coachings qu'on a publié maintenant dans le journal de l'Académie ainsi que dans le numéro spécial du journal de l'Académie qui avait été publié pour la conférence de l'International Coach Federation. Et c'est une photo de Jean-Luc avec un de ses coachés sur une bicyclette tandem. Et je trouvais ça tellement évocateur de la relation de coaching, où c'est réellement le coaché qui est maître de la direction du coaching. Et je te remercie pour ça, Jean-Luc, de cette belle image qui est très évocatrice pour les coachs.
Jean-Luc? Oui, on avait discuté à Bruxelles, je me demandais mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme slogan ou quelque chose d'évocateur comme coaching. Et puis je dis, mais mince, j'ai un tandem dans le garage. Mais oui, bien sûr, c'est le tandem, c'est évident. c'est le coaché qui a le guidon, qui dirige, et moi, bon, je donne un coup de main derrière et je peux aider. C'est tout à fait ça.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question?
Oui, une dernière question.
Oui, c'est Anne. Alors, Jean-Luc, tu as répondu tout à l'heure que à la question comment passer par-dessus ses peurs, tu as répondu par la confiance. Mais j'imagine que tu as dû vivre des moments intenses de découragement. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été le déclic, comment se fait le pont entre ce profond découragement et la confiance?
Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. D'abord, c'est là, je vous parle, etc., avec du dynamisme, plein d'enthousiasme. Il est clair que je reste un homme comme tout le monde, avec des moments de cafard, des moments difficiles. Ça, c'est clair, je crois qu'on en a tous, j'en ai comme tout le monde. Comment passer du moment de découragement à la confiance? C'est un long parcours. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas une étape. Je vous ai dit, pour en arriver où j'en suis maintenant, il m'a fallu 10 ans, et je ne triche pas. Il y a des hauts, des bas, il y a des difficiles, il y a des difficultés, il y a des recherches. Je ne vous ai pas parlé en fait de tout l'aspect aussi relationnel. Ça a été très très dur pour moi et pour ma famille, parce que quelque part mon handicap m'handicapait moi, évidemment, mais aussi ma famille. Donc ça avait des retombées sur eux. Pendant tout un temps, on est resté dans un cercle vicieux de... Je ne pouvais pas m'épanouir parce que ma famille ne s'épanouissait pas et ma famille ne s'épanouissait pas parce que moi, je ne m'épanouissais pas. On était vraiment dans un cercle vicieux comme ça. Donc, je n'ai pas une réponse comme ça directe. C'est des pas en avant, des pas en arrière, des pas à gauche, des pas à droite. C'est un long parcours. Avec, évidemment, très important, l'entourage, les résultats, les actions qui donnent confiance, qui permettent d'arriver. Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. Il faut des années, il faut laisser le temps au temps. Je crois que c'est le temps en fait qui est... Oui, c'est ça, je résumerai comme ça. C'est le temps qui m'a permis de passer d'une étape à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Avec plaisir. On en est, je crois, aux conclusions. Alors... Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On m'a appris en coaching qu'à la fin de toute intervention, il fallait des requêtes. Alors, je vous ai réservé 2 requêtes. La première requête, elle est absolument non négociable, applicable immédiatement pendant minimum 21 jours pour que ça devienne une habitude. Vous êtes là tous, devant votre téléphone, devant votre ordinateur. Je vous invite à lever les yeux, à regarder autour de vous. Je suis sûr que ça fait 1 heure que vous êtes devant quelque chose de merveilleux, d'intéressant, quelque chose qui vous interpelle, un objet, un rayon de soleil, un petit coin de ciel. C'est pas quelque chose que vous êtes depuis 1 heure devant et que vous n'avez pas regardé. Et je vous invite à le regarder. Demain ou tout à l'heure, quand vous sortirez dans la rue, regardez cette petite mauvaise herbe là qui est en train de pousser entre 2 cailloux. Regardez cet arbre qui est devant lequel vous passez tous les jours et que vous ne voyez pas. Regardez le ciel, même s'il est gris. Regardez la nature. Regardez les enfants qui jouent, qui rient. Mesdames, regardez ce charmant jeune homme qui fait son footing. Et vous, messieurs, je vous invite à regarder votre épouse le matin. Regardez son sourire. Elle a un nouveau chemisier. Regardez son léger décolleté. C'est merveilleux. Le merveilleux est autour de vous. Regardez-le. Prenez-le en pleine figure. N'allez surtout pas chercher plus loin. J'adore ce proverbe tibétain qui dit « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est dans le chemin. Profitez-en. » Demain matin, quand vous vous réveillerez, avec tous vos 5 sens en éveil, prenez-le, c'est merveilleux, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Remerciez la vie, remerciez les gens qui vous aiment. Ça c'était ma première requête. Ma deuxième requête est partie en fait d'une constatation. Tout à l'heure, un d'entre vous a parlé de résilience. En fait, mon cas est loin, loin, loin d'être exceptionnel. Malheureusement, il y a des milliers de gens comme moi. C'est bien pratique. Maintenant, on parle de résilience, un mot très à la mode. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que beaucoup de ces gens, comme moi, ont subi un traumatisme, en ressortent forts et sereins. Regardez un peu autour de vous. Interrogez quelqu'un qui est un rescapé du génocide rwandais. Interroger un aveugle, un paralytique. vous verrez qu'il y a une force dans ces gens. Et même, parfois, je dirais même c'est énervant, parce que souvent, ces handicapés, ils sont là toujours en train de rigoler. On dit, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau de sérénité. Regardez le parcours de Nelson Mandela. Il a passé 18 ans de sa vie en prison à être torturé. Il en est sorti en étant un sage, un homme très humain. Donc, ce parcours-là m'interpelle. Alors, je me suis dit, mais mince, alors, pourquoi est-ce qu'il faut passer par un traumatisme? Pourquoi faut-il passer par l'horreur pour arriver à la sérénité, au calme? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le trouver autrement? Alors, j'ai une requête à vous proposer. Réservez, je vous demande, toutes les semaines, au minimum, de réserver une heure de votre temps. Et pendant cette heure, rentrez dans la non-action, ne faites rien. Mettez-vous dans un endroit isolé, évacuez tout ce qu'il y a dans votre cerveau, appelez ça de la méditation, comme vous voulez, peu importe. Et je vous invite à vous mettre dans une situation extrême. Imaginez-vous, oui, que ben, vous étiez en voiture, votre pare-brise a éclaté, vous avez perdu la vue. Vous étiez dans la rue, une voiture vous a écrasé, vous a renversé, vous êtes tétraplégique. Votre médecin vient de vous annoncer que vous n'avez plus qu'un mois à vivre. Ou pire, alors pire, imaginez que votre coach mentor vous lance un défi et vous dit, dans un mois, vous allez faire une conférence et vous serez devant un parterre d'intellectuels et vous allez devoir les tenir en haleine alors que toutes les phrases de votre conférence vont commencer par « moi, je ». Bref, vous vous mettez dans une situation extrême. Et à ce moment-là, je vous invite à chercher la première chose, c'est le sens de votre vie. Qu'est-ce qui vous tiendra toujours debout? Qu'est-ce qui vous tient debout? Imaginez, vous êtes aveugle et on vous donne 30 secondes de vue. Qu'est-ce que vous regarderez? Vous êtes un sourd, on vous donne une minute, un son à écouter, lequel vous écouterez? Vous êtes tétraplégique, on vous donne 5 minutes, des jambes pendant 5 minutes, où irez-vous? Faites le même chemin avec l'odorat, faites le même chemin avec le toucher. Et voyez ce qui était fondamental pour vous. Ensuite, une fois que vous avez ça, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si votre route actuelle s'arrête. C'est pas compliqué, hein, il suffit de la crise, vous perdez votre emploi, votre maison qui était à crédit, ben voilà, est saisie, il y a un incendie, il suffit de pas grand-chose et votre route s'arrête. Et là, je vous mets au défi de trouver 10 nouvelles routes vers lesquelles vous pourrez aller. Un chemin, moi, une image que j'ai beaucoup utilisée moi-même, c'est de dire, ok, maintenant je suis dans une prison, il y a 4 murs autour de moi. Qu'est-ce que je vais chercher dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mes tripes pour m'évader, pour dépasser ces murs? Pour que quand le geôlier viendra, il me dira, ah, je t'ai mis en prison, je lui dirai, non, je me suis évadé, j'ai dépassé les murs. Et je vous invite vraiment à trouver. Mettez-vous dans une situation extrême. Si vous étiez aveugle, brusquement, qu'est-ce que vous feriez? Je vous invite vraiment à trouver 10 nouvelles routes. Et là, une fois que vous aurez fait ce cheminement, vous aurez la poignée qui vous tiendra toujours debout. Vous aurez 10 routes de secours. Et je crois que vous aurez vraiment assimilé le fait que quand on se met en réflexion, quand on utilise son cerveau frontal, on trouve des solutions à tous les problèmes. Tous. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. C'est pour ça qu'il faut dépasser, arriver à la réflexion. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais une des particularités du parcours que j'ai eu, c'est que je suis 100% dans la réflexion. Je ne peux rien faire vraiment d'instinct. Et je suis obligé d'être dans la réflexion. Donc, voilà, une fois que vous aurez atteint ça, je crois que vous aurez fait un pas énorme vers la sérénité et l'équilibre. Et vous verrez, vos clients verront que quand on est serein, équilibré, bien dans sa peau, vos proches, les gens viennent vers vous et vous apportent des tonnes d'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite à tous un excellent parcours. Merci pour tout.
Ouf! Jean-Luc, je tiens à te remercier sincèrement de ce témoignage qui est venu me toucher très profondément et je suis convaincue que ça a touché la plupart de ceux qui étaient avec nous aujourd'hui et ceux qui écouteront la téléconférence en différé aussi. Simon m'a fait un petit clin d'œil, il est venu se pointer le bout du nez, il m'a dit « il est passionnant ce Jean-Luc ». Tu as un parcours qui à la fois est inhabituel et à la fois peut-être trop fréquent. Peut-être que ça arrive trop souvent que les gens reçoivent un petit coup de la vie comme ça ou un grand coup de la vie comme ça, mais j'ai rarement vu une personne profiter de la vie comme un cadeau alors qu'effectivement on aurait pu se laisser aller avec toutes ces difficultés. Jean-Luc, un grand merci au nom de tous les participants. Je remercie aussi les participants de votre présence, de vos questions, de votre ouverture, votre écoute à cette téléconférence qui est un peu différente des autres, mais qui saura sans doute vous inspirer dans vos relations, dans votre coaching, bien au-delà du regard. Si vous avez du feedback à nous envoyer, il est bienvenu. Vous envoyez cela à Simon ou à l'adresse suivante spage@coaching.qc.ca. Donc je répète spage@coaching.qc.ca. C'est aussi sur notre site. J'en profite pour vous inviter aussi pour la prochaine téléconférence. Et vous devrez être un peu patient parce que ça aura lieu le jeudi 17 septembre de 16h à 17h heure de l'Est ou 22h à 23h heure de Paris. Le titre de cette conférence sera « Les performances durables ne sont pas efficaces, elles sont efficientes ». Il sera présenté par notre partenaire français Success Communication et Leadership et Communication, M. Yves Richez, qui s'intéresse particulièrement au mode opératoire des personnes, les différents types d'intelligence et qui sera certainement vous inspirer aussi. Et c'est avec Yves que l'on travaille à la conception du troisième cycle du programme d'entraînement au coaching professionnel. Et on vous en dira un petit peu plus au cours de l'été, au cours du mois de septembre, pour enfin lancer le programme à l'hiver 2010. Encore une fois, un grand merci à tous et on espère vous retrouver après l'été. Profitez bien de l'été pour vous ressourcer, pour prendre 21 fois... une heure à ne rien faire, une heure à regarder autour de vous. J'accepte personnellement cette requête de la part de Jean-Luc et j'espère que la plupart d'entre vous l'accepteront aussi. Merci beaucoup et à la prochaine.